Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le comédien Zelensky est largement en tête du premier tour de la présidentielle en Ukraine. Il devance le président actuel Petro Poroshenko. Changement de régime, changement de personnalité en vue. Nous irons à Kiev dans un instant.
Notre correspondante en Algérie fera ensuite le point sur le nouveau gouvernement du pays. Il a été présenté hier soir. Sur les 27 membres, 8 faisait partie de l'ancienne équipe. Il y a peu de jeunes et de femmes.
Remaniement également en France, où Amélie de Montchalin, Sibeth Ndiaye et Cédric O entrent au gouvernement. Des proches d'Emmanuel Macron qui connaissent les dossiers. La preuve de l'isolement du président, répond déjà l'opposition.
La pollution dans les transports en question en France. La CFDT attaque l'État en justice quand en Allemagne, de nouvelles villes interdisent les vieux diesels. Explication à suivre.
Et puis nous nous pencherons sur les municipales en Turquie. Hier, le parti du président Erdogan a perdu Ankara et peut-être Istanbul. Nous irons sur place. C'est un pays en guerre aux portes de l'Union européenne et un comédien humoriste est bien parti pour le diriger. Non, en ce 1er avril, ceci n'est pas une blague. Nous sommes en Ukraine, au lendemain du premier tour de la présidentielle. Le comédien Volodymyr Zelensky est favori des sondages. Il l'a emporté hier au premier tour avec 30,4% des suffrages devant le président sortant Petro Poroshenko. Lui obtient 17,8% des voix. L'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko est troisième et donc éliminée selon les chiffres du dépouillement. Bonjour Claude Bruyot.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant à Moscou, envoyé spécial ce week-end à Kiev pour ces élections. Un comédien en tête, Claude, il a largement bénéficié du rejet des élites. Ouvrez-moi le micro. Claude Bruyot, qui était en direct de Kiev. Nous avons perdu, me semble-t-il, la connexion.
Oui, vous m'entendez ?
Ouais, nous vous entendons, Claude Bruyot. Je vous parlais du comédien Zelensky qui est arrivé en tête lors du premier tour en Ukraine. Et nous le disions, il a largement bénéficié du rejet des élites dans le pays.
Absolument, ça ressemble fortement d'ailleurs à une forme de dégagisme à l'ukrainienne. Dans tous les cas, les attaques de Zelensky ont porté contre ceux qui trustent le pouvoir depuis 20 ans en Ukraine, sans avoir réussi à mettre un terme efficacement aux scandales réguliers de corruption qui les éclaboussent. Alors, la vraie question maintenant sera de savoir si cette volonté d'écarter Tymoshenko donc au premier tour, puis potentiellement Poroshenko au second tour dans 3 semaines, va résister à la projection de Volodymyr Zelensky, artiste à succès, appelé à devenir le chef, vous l'avez dit, d'un pays en guerre, en très grande difficulté sur le plan économique, sous la pression régulière de Vladimir Poutine. En d'autres termes, le vote protestataire d'hier s'accompagne-t-il d'un plafond de verre au-delà duquel le saut dans l'inconnu que représente la victoire finale de Zelensky ne ferait plus peur aujourd'hui à la majorité des Ukrainiens? Avec Clara toutefois une nuance, dans moins de 6 mois auront lieu les élections parlementaires en Ukraine qui peuvent fonctionner comme une forme de contrepoids véritable au nouveau pouvoir dont bénéficierait l'inexpérimenté Zelensky, désormais donc, vous l'avez compris, grand favori du second tour de la présidentielle.
Zelensky, Poroshenko, voici donc, on l'a compris, le duel pour le second tour. Et le président sortant, Claude Poroshenko, est en très mauvaise posture.
Oui, et le temps presse d'ailleurs pour Petro Poroshenko, qui ne pourra compter donc sur un désistement de Yulia Tymoshenko en sa faveur. Les deux poids lourds du paysage politique ukrainien depuis 20 ans se vouent une haine tenace qui interdit a priori tout rapprochement, d'autant que la passionnariat, comme on l'appelle, de la révolution orange de 2004, a partagé avec Volodymyr Zelensky le même parrain, en l'occurrence le sulfureux oligarque Igor Kolomoïski. L'intéressé vit aujourd'hui en Israël et a juré la perte de Petro Poroshenko, coupable à ses yeux d'avoir été organisateur de la nationalisation de sa banque. Et Petro Poroshenko ne pourra pas non plus se rapprocher des candidats pro-russes, qui représentent tout de même 15% des voix au premier tour, lui qui a tout misé sur sa stature de rempart contre les offensives du Kremlin.
Merci beaucoup Claude. Claude Bruyot en direct de Kiev ce matin pour France Culture. Le second tour de cette présidentielle ukrainienne aura lieu dans 3 semaines, le 21 avril prochain. Notons par ailleurs qu'en Slovaquie, donc dans l'Union européenne, cette fois le second tour de la présidentielle avait lieu samedi. Et pour la première fois, une femme l'a emporté, l'avocate libérale Susana Kaputova, écologiste anticorruption. Elle a battu le candidat soutenu par le gouvernement. En Algérie, ce n'est pas un rejet des élites qui change un peu le paysage politique du pays, mais c'est le rejet d'un système. Le système du président Abdelaziz Bouteflika qui, selon deux chaînes de télévision algériennes ce matin, pourrait annoncer bientôt sa démission. En tout cas, on connaît depuis hier soir la composition du nouveau gouvernement algérien, l'ancien ayant été poussé vers la sortie par la contestation populaire qui dure depuis un mois et demi maintenant. Une nouvelle équipe donc, elle est composée de 27 membres, dont 8 anciens ministres. Et cela ne répond pas totalement aux engagements, Leïla Berhato.
Les autorités avaient promis un nouveau gouvernement de technocrates avec des jeunes et des femmes. La promesse n'est qu'à moitié tenue. Il y a bien deux figures qui se détachent. Meryem Merdassi, 36 ans, éditrice de la ville de Constantine qui devient ministre de la Culture. Et Raouf Pernaoui, 43 ans, président de la Fédération d'Escrime qui prend la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les autres nouvelles têtes du gouvernement sont des hauts fonctionnaires ou des responsables d'entreprises publiques. La principale information, c'est le départ de Ramtane Lamamra qui est remplacé par Sabri Boukadoum au poste de ministre des Affaires étrangères. Ramtane Lamamra qui était hier à Tunis pour la réunion de la Ligue arabe. Plus tôt dans la journée, ce qui faisait la une des médias algériens, c'est ce coup de théâtre. Ali Haddad, l'homme qui était à la tête du patronat algérien jusqu'à ce jeudi, a été arrêté alors qu'il tentait de se rendre en Tunisie. L'homme d'affaires est très proche de Saïd Bouteflika, le frère du président. Si les causes de cette arrestation ne sont pas encore claires, elle arrive au moment où des voix s'élèvent pour dénoncer des tentatives de fuite des capitaux. Alger a ainsi interdit hier l'atterrissage ou le décollage d'avions privés appartenant à des Algériens. Les médias évoquent des mesures d'interdiction de sortie du territoire prises à l'encontre de certaines personnalités et des contrôles renforcés aux frontières.
C'était notre correspondante à Alger, Leïla Berhato.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La France aussi connaît en ce début de semaine un remaniement.
Oui, depuis hier soir, on connaît les noms des trois nouveaux entrants dans le gouvernement. Sibeth Ndiaye, jusque-là chargée de la presse à l'Élysée, elle est désormais porte-parole du gouvernement et remplace donc Benjamin Griveaux. Cédric O, conseiller du chef de l'État pour le numérique, devient lui secrétaire d'État au numérique. Et puis aux affaires européennes est nommée Amélie de Montchalin, députée La République en Marche. Tous sont des fidèles du président Emmanuel Macron, voire des proches. Une bonne chose, voilà ce que dit le député La République En Marche de Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari.
C'est la prime à des gens qui se sont engagés auprès d'Emmanuel Macron très tôt, qui ont cru effectivement dans sa proposition politique, qui depuis 18 mois maintenant travaille à ses côtés, à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée, qui sont compétents sur les dossiers, et c'est le cas de dossiers compliqués sur le numérique comme pour Cédric O ou pour l'ensemble, on va dire, de notre action politique pour Amélie Montchalin qui a coordonné les travaux pour le groupe majoritaire. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement engagés, qui seront rapidement en capacité d'agir et c'est bien ce qui compte aujourd'hui.
Alors au contraire, ces choix du président de la République sont vus au contraire par l'opposition comme un aveu d'isolement de la part d'Emmanuel Macron et même une provocation selon le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens.
Une majorité de Français réclame depuis maintenant plusieurs mois le rétablissement de l'ISF. Hein. Cette affaire va au-delà des seuls gilets jaunes. Hein. Une majorité de Français y est favorable. Et puis, ils vont avoir au gouvernement l'une de celles qui a été en première ligne pour défendre sa suppression.
Vous parlez d'Amélie Montchalin, hein, je précise.
Bien sûr. Et de la même manière, les gilets jaunes réclament depuis maintenant plus de 4 mois la hausse des minima sociaux. Et puis, ils vont avoir Madame Ndiaye qui a été celle qui avait ouvert la séquence pognon de dingue. Bref, ça montre quand même qu'Emmanuel Macron n'a pas énormément de choix dans la besace et il a été contraint et forcé de faire ce remaniement dans la mesure où politiquement, c'est d'abord et avant tout la petite base resserrée autour de lui qui en tire profit.
Des propos recueillis par Julien Langlais. Après ce journal, Frédéric Seyss analysera ce remaniement dans son billet politique. Nous le retrouvons à 8h16. 300 000 personnes sont menacées d'expulsion ce matin en France puisque la trêve hivernale s'est terminée hier soir. Près de 15 000 personnes en moyenne seront effectivement expulsées cette année. Selon les associations, les expulsions locatives ont augmenté en 2017 de 46%. La Fondation Abbé Pierre se bat contre cela. Elle organisait hier encore un rassemblement en ce sens à Paris. Mais pour Pierre Autus, directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, ce ne sont pas les expulsions qui posent problème, mais les solutions de relogement. Il le dit à Maud Calves.
L'effet de cette trêve hivernale vient concentrer les expulsions sur une période, d'ailleurs qui précède juste la forte période où il y a peu de logements disponibles sur le marché parce qu'il y a beaucoup de demandes. Au printemps, il y a une forte rotation mobilité dans les logements et donc ça n'est pas si simple d'augmenter encore le nombre de personnes sur le marché. Si on apprenait à reloger au fur et à mesure de l'année et qu'on ne se focalisait pas sur cette trêve hivernale et qu'on avait une réelle capacité à reloger les gens tout au long de l'année, le problème des expulsions, c'est pas tellement le sujet du recours à la force publique et de mettre les gens sous les ponts. Comme si on pouvait plus facilement vivre sous un pont en été qu'en hiver. J'ai envie de dire, ça n'a aucun sens cette trêve hivernale. Le vrai sujet, c'est la capacité à reloger les gens et les reloger rapidement.
Cette information maintenant qui nous vient de France Bleu Occitanie ce matin. Au sud de Toulouse, 4 pensionnaires d'un EHPAD sont décédés cette nuit. Ils auraient été victimes d'une intoxication alimentaire. Au total, 22 résidents de cette maison de retraite auraient été touchés par cette intoxication. Le prix de certaines prothèses dentaires sera plafonné à partir d'aujourd'hui, 1er avril. Un changement qui s'inscrit dans le reste à charge zéro, promesse du candidat Macron. Les lunettes et les prothèses auditives suivront l'année prochaine. L'idée est de lutter contre le renoncement aux soins chez les patients les moins aisés. C'est la deuxième fois que la CFDT saisit la justice contre l'État français face à la pollution de l'air dans les transports. Une nouvelle plainte sera déposée cette semaine devant le Conseil d'État. La CFDT veut en fait revoir les normes d'exposition des travailleurs dans les gares, les métros, les tunnels. Son avocat, maître François Laforgue, s'en explique.
Près de 4 ans après, rien n'a été fait, donc on a décidé de saisir à nouveau le Conseil d'État pour qu'il enjoigne à l'État de prendre une réglementation protectrice des travailleurs. On peut mégoter sur les différences entre les normes, mais en fait, les poussières, dans un cas, la valeur limite est de 5 000, ça c'est pour les travailleurs, et dans l'autre cas, c'est 50 pour la population, donc il y a 100 fois plus pour les travailleurs que pour la population générale, ce qui est inadmissible, c'est-à-dire qu'on est en train d'exposer une population de travailleurs a un risque sanitaire, respiratoire et cardiovasculaire important.
Moins de pollution dans et autour des transports, c'est l'objectif des collectivités en Allemagne également. Deux nouvelles villes du pays empêchent à partir d'aujourd'hui les vieilles voitures diesel de circuler. Il s'agit de Cologne et de Bonn. Ce ne sont pas les premières villes, mais il n'est pas sûr que cette stratégie fonctionne vraiment outre-Rhin, Ludovic Piétenu.
Depuis bientôt un an, l'Allemagne vit au rythme des restrictions de circulation. Hambourg a ouvert le bal le 31 mai en barrant 2 routes de l'hypercentre et depuis, de l'aveu même des associations de protection de l'environnement, les relevés de pollution ne sont pas très probants. En début d'année, Stuttgart a frappé plus fort, interdisant tout le centre-ville et à compter d'aujourd'hui, tout comme Bonn et Cologne, l'ensemble de l'agglomération. Il y a même aussi dans la Ruhr un tronçon d'autoroute interdit au diesel depuis le mois de novembre, le seul pour l'instant. Ajouté à partir de l'été prochain, quelques-uns des axes les plus pollués au cœur de la capitale, Berlin, mais aussi 2 routes à Darmstadt, idem à Aix-la-Chapelle et Francfort. Ce ne sont bien souvent que les très vieux diesels qui sont interdits, mais très vite cela va concerner les modèles les plus récents de normes Euro 5 mises en circulation ces toutes dernières années. Cela décourage forcément les acheteurs. Quant aux constructeurs automobiles allemands, jusque-là plutôt à la traîne pour se convertir à l'électrique, ils ont tous décidé ces derniers mois d'effectuer un virage très serré, des investissements à coups de milliards et plusieurs milliers d'emplois supprimés.
Au Royaume-Uni, les députés britanniques vont tenter aujourd'hui de trouver une alternative à l'accord de Brexit négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles. Il pourrait faire pencher la balance pour un divorce plus doux avec l'Union européenne. La semaine dernière, rappelons-le, les parlementaires avaient déjà tenté de prendre le contrôle du processus du Brexit en examinant 8 options. Toutes avaient été rejetées. Il a remporté toutes les élections depuis l'arrivée au pouvoir de son parti en 2002. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est peut-être vaincu ce matin dans la capitale Ankara. L'opposition y revendique la victoire après des élections municipales organisées hier. Et puis à Istanbul également, le président turc est en mauvaise posture, Alexandre Billette.
C'est non seulement une défaite électorale, c'est un coup porté à l'orgueil de Recep Tayyip Erdogan, lui qui aime répéter que gagner Istanbul, c'est gagner la Turquie. Pourrait bien perdre la métropole turque, sa ville, celle dont il a été maire avant d'être élu Premier ministre en 2003. Et pour le moment, l'AKP et l'opposition du CHP revendiquent la victoire et l'écart entre les deux candidats est de moins de 4000 voix sur près de 9 millions de bulletins de vote. Et le dépouillement a été interrompu alors que tous les résultats n'ont pas encore été publiés. On attend désormais que la commission électorale se prononce. Dans la nuit, le président turc a semblé évoquer l'éventualité d'une défaite au détour d'une phrase alambiquée. Mais son parti veut maintenant déposer des recours pour revérifier des bulletins de vote à Ankara comme à Istanbul. C'est une bataille juridique qui commence. Le chef de l'opposition a demandé à ses observateurs de rester dans tous les bureaux de vote jusqu'à nouvel ordre.
Alexandre Billette, correspondant de RFI à Istanbul pour France Culture. Le temps s'annonce encore chaud et ensoleillé ce lundi sur l'Hexagone. Ensoleillé surtout au nord de la Loire et sur le sud-est, car les nuages arrivent par les Pyrénées et la pluie arrive aussi. Dès demain, les giboulées traverseront le pays. D'ici là, ce matin, comptez déjà 10 degrés à Lille, 11 à Besançon, 12 degrés à Nantes, 13 à Paris et Lyon, 15 degrés dans la matinée à Bordeaux et 16 à Marseille.